time and watch you pass by. I'll draw this line and hope you'll take my side. You shouldn't have to fight alone. It's nobody's battle but your own.
All right, bon matin tout le monde. Et vous écoutiez To a Friend de Alex on Fire, qui est un des bands que j'ai le plus écouté dans ma vie, sérieusement. En tout cas, moi, je les trouve phénoménal, ce band-là. Pour vrai, si vous êtes un peu dans le metalcore, l'album Crisis, Alex on Fire, c'est super bon. Puis particulièrement la tune que je vous ai fait écouter, qui est sur l'addiction à la drogue. Puis la manière que c'est écrit, c'est merveilleux. Fun fact, la plupart du monde ont peut-être entendu cette tune-là. Puis en fait, oh mon Dieu, ça me dit quelque chose. Vous connaissez peut-être l'album City and Color. C'est le même chanteur, sauf que City and Color, il n'a pas starté avec... Je sais pas si c'est du pop, ça. Probablement du rock un peu plus soft, appelons ça comme ça. Il a pas starté avec ça, il a vraiment starté avec un groupe de scream et de metalcore au fond. Puis c'est ça, To a Friend, qui est vraiment, vraiment hot. C'est vraiment, vraiment bien écrit parce que c'est comme, I guess que c'est interne, parce que jamais dit que c'est externe ou que c'est une conversation concrète, mais c'est un genre de dialogue interne sur est-ce que l'addiction à la drogue en vaut la peine. Puis il y a comme une évolution d'un parole au long de la chanson. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment super bien écrit. Aujourd'hui, podcast sur un sujet qui est vraiment, vraiment nice, pour vrai. Ça m'a été inspiré, fait qu'il faut que je donne le crédit où est-ce que le crédit est dû. Rendons à César ce qu'il dit à César. Un de mes collègues, Guillaume Boucher, qui a fait un excellent, c'est un reel, je pense, qu'il a fait sur cette étude-là en ce moment. Puis c'est une de mes études préférées, puis j'avais complètement oublié qu'elle existait, cette étude-là. Puis je vais essayer de l'amener un peu à ma sauce parce que no fucking way, OK, que tu referais une étude comme ça aujourd'hui. Ça passerait vraiment, vraiment pas. Ça serait... En tout cas, tu serais poursuivi au minimum si tu ferais une affaire comme ça. Mais dans les années 70, 80, même un peu avant, 60 à 80, il y a eu beaucoup, beaucoup de percées scientifiques qui ont été faites à cause que les comités éthiques, ça n'existait pas tant. Puis dans le fond, tu faisais pas mal ce que tu voulais si c'était au nom de la recherche. T'sais. Puis il y a plein de découvertes scientifiques majeures qui ont été faites dans ces années-là à cause que justement, les scientifiques étaient donnés un peu le libre-arbitre, avaient se faisaient donner une carte blanche, qui est une mauvaise chose, OK? Genre, overall, tu veux pas que des gens soient en situation de pouvoir relativement absolu. Tu veux pas ça, c'est pas une bonne idée. Mais on découvre des affaires qui sont quand même intéressantes. C'est le cas, entre autres, de peut-être que certains d'entre vous avaient entendu parler de l'effet Lucifer. L'effet Lucifer qui est genre, si tu recrutes des gens 100% normal, sans antécédent de rien, sans antécédent de violence, sans rien, puis que tu leur donnes le contrôle absolu sur d'autres humains, mettons dans le cadre d'une étude, d'autres, il y avait ça sur le fait de gardiens de prison puis de prisonniers, puis ils ont juste splitté le monde au random, là, c'était un tirage au hasard, puis genre, ils ont dit, all right, toi, t'es un gardien, toi, t'es un prisonnier, ta job, le gardien, c'est de t'assurer que les prisonniers sont sous contrôle. Puis, tu sais, au début, le monde, ils prennent pas trop ça au sérieux, puis ils ont juste, puis trois jours après, ils arrêtent l'étude à cause de graves dommages mentaux aux participants, parce que tu veux pas, genre, faire ça, tu veux pas donner le contrôle, le pouvoir absolu à un humain, c'est vraiment pas une bonne idée. Puis ça a été découvert justement dans ces années-là. Puis ça s'appelle l'effet Lucifer, ce qu'ils ont donné. C'est que ça te prend un contre-pouvoir, c'est vraiment, vraiment important. Sinon, le pouvoir corrompt. Puis ça a été étudié dans un protocole de même. Puis dans ces années-là, c'était socialement acceptable. Puis on a eu, en entraînement, un effet comme ça, où est-ce que tu mens carrément à des participants sous le nom de la science pour valider quelque chose. Ça s'est fait dans les années 70. C'est une étude de, j'oublie tout le temps le nom, il y a comme deux auteurs, j'oublie tout le temps le premier. Il y a Ariel, mais il y en a un autre. C'est quoi son nom? Saville, S-A-V-I-L-E, Saville et Ariel, en 1972, ils ont fait un peu l'équivalent de l'effet Lucifer en entraînement. Puis je pense que l'étude a vraiment, vraiment beaucoup d'affaires à nous apprendre. Puis je vais juste checker ça avec vous, en mettant un peu de ma sauce, un peu de détails. Puis vous voyez ça comme vous voulez, OK? Ah non, je vais commencer avec l'histoire, mais après ça, je ferai ma petite parenthèse, parce que j'ai quelque chose à dire là-dessus. J'ai un petit cri du cœur à faire sur celui-là. Dans le fond, Ariel et Saville, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recruté 15 personnes, OK? 15 gens qui s'entraînaient. Puis ils leur ont dit, on va prendre du monde, groupe, puis dans le fond, ceux qui vont le plus de résultats, les 5, je pense que c'était 5 ou 6 personnes qui vont le plus de résultats avec l'entraînement qu'on va leur faire, ceux-là vont être admissibles à recevoir un stéroïde gratuit, légal, par voie orale, sous supervision médicale. Okay? L'obstacle principal pour la plupart du monde aux stéroïdes, c'est vraiment l'injection. Genre, le monde trouve ça next level de s'injecter quelque chose. Fait que tu prends des gars qui s'entraînent, qui valorisent ça un peu, qui n'ont pas besoin de s'injecter, que ça va être fait sous supervision médicale, ben, il y a bien du monde qui sont très, très, très on. Fait que là, ils ont embarqué du monde sur un protocole d'entraînement de 4, 5, 6 semaines. Je ne me rappelle pas de la durée que ça avait duré. Puis dans le fond, ils ont trié le monde, puis ils ont pris le monde qui ont le mieux réagi au protocole d'entraînement. Puis 4, 5, 6 semaines après, ils leur ont dit, « All right, maintenant, on va vous prendre vous autres à part, puis on va vous faire un protocole de stéroïdes, puis vous allez faire un autre entraînement, vous allez être suivi, puis on va regarder la différence. » OK? Le monde En général, puis là, j'ai toutes les charges devant moi, OK? Avant versus après protocole de stéroïdes, ont acheté 15 kilos en moyenne sur leur bench press. C'est immense en quelques semaines, 15 kilos. 30 livres sur un bench press quand tu es intermédiaire avancé, c'est fucking huge, man. Okay? C'est vraiment, vraiment beaucoup. Ils ont acheté quasiment 8 kilos sur un shoulder press. Fait qu'on parle d'un peu plus que 15 livres sur un shoulder press. Encore là, c'est vraiment énorme sur quelques semaines. Puis sur le squat, okay, une différence de quasiment 20 kilos. Fait que just shy du 50 livres, genre 44 livres de différence en quelques semaines. La différence avec l'admission de stéroïdes était phénoménale. Okay? C'est des gains insane que le monde a eu. Puis il ne faut pas oublier que le monde a eu d'autres gains dans les semaines d'avant parce que justement, ils ont suivi un protocole régi. Puis c'est les gens qui ont déjà le plus progressé. T'sais? Fait qu'on sous-estime un peu ces gens-là. Ils ont déjà eu beaucoup, beaucoup de gains dans les dernières semaines. On leur dit qu'on va leur donner des stéroïdes. Puis après ça, les gains explosent. T'sais? Fait qu'ils ont eu un changement de shape du tout au tout. Okay? Il y a juste un problème. C'était pas vrai qu'ils leur ont donné des stéroïdes. C'était un placebo. Tu pourrais pas faire ça en ce moment, OK? Ça passerait vraiment, vraiment pas. Tu pourrais pas mentir à des scientifiques. Tu peux donner une espèce de placebo. Ça se fait sous différentes conditions. En disant aux gens, mettons, qu'il y en a qui vont être dans le groupe traitement, l'autre va être dans le groupe placebo, mais tu ne savais pas dans quel groupe vous allez être, mettons. Mais tu peux pas carrément leur fucking mentir en leur disant que tu vas leur donner quelque chose que tu leur donnes pas, tu sais. Puis malgré le fait que c'était un placebo, le monde a eu des gains insane. Parenthèse, la petite parenthèse que je me disais au début. Le comité éthique, quand moi j'avais quand même un très très gros projet à ma maîtrise, là. On avait genre 2000 participants, fait qu'on était quand même relativement watchés, ce qui est une bonne chose. C'est une bonne affaire pour vrai qu'on soit watchés. Puis tu veux pas que des chercheurs aient carte blanche parce que ça peut vraiment. Ça vient comme au minimum des affaires d'eux-mêmes qui sont vraiment vraiment très pas morales, là. C'est amoral de mentir à du monde pour la science, là, tu sais. Mais. Tu veux pas que le monde ait ça, mais nous autres, mon comité éthique, il nous avait fait chier à cause qu'on avait trop de prix qu'on donnait. Là. Fait que, tu sais, il a fallu que je refasse tous mes protocoles, que je refasse toute ma demande, que je refasse une affaire parce que je donnais trop de prix aux participants. Fait qu'ils sont vraiment rendus à l'autre extrême en ce moment, qu'ils sont vraiment, vraiment tight sur tout ce qui est règle. Faut que tu suives le protocole, faut que tu suives tes affaires, surtout si tu impliques des humains ou que tu impliques des médicaments ou des affaires de même. Ils sont vraiment, vraiment, on n'est plus là. On peut plus faire ça, mais il y a beaucoup de gains qui ont été faits dans ces années-là, justement, parce que c'était vraiment, vraiment plus lousse. Puis là, take home message, OK? Voyez ça comme vous voulez. Le monde n'a pas eu de stéroïdes. On a eu des gains de 20 kilos sur un squat, 15 kilos sur un shoulder press, ça n'a pas rapport, sur un bench press, excusez-moi, ça n'a pas rapport, puis quasiment 8 kilos sur un shoulder press, OK? En genre 4 ou 5 semaines. Parce que le monde pensait qu'ils prenaient des stéroïdes, ils se sont mis dans une espèce de mindset, ils ont commencé à s'entraîner plus tard. Ça ne changeait rien, sa récupération, les stéroïdes étaient inexistants, tu sais. C'était juste que le monde se mettait plus là-dedans, puis il tombait dans un mood de là, je prends des stéroïdes, je m'attends à ce que tout progresse. Puis, c'est pas l'idée, c'est pas de virer ça en le secret ou de manifester ce que tu veux y avoir. C'est pas ça l'idée. La seule chose que j'essaie d'amener avec ça, parce que ça, c'est une affaire que le monde pense pas nécessairement lorsqu'ils vont s'entraîner ou qu'ils vont faire quoi que ce soit d'autre, c'est là, on a vraiment l'effet positif. De genre, si je pense que je prends des stéroïdes, je m'attends à avoir des gains, je vais avoir des gains. À cette heure, imaginons l'autre extrême. Imaginons l'autre extrême qui est genre, t'es le genre de personne qui fait juste constamment te dire « Ah, je serais pas capable. Moi, je suis pas capable de perdre du poids. Moi, mon métabolisme, il est lent. Ah, moi, j'ai jamais été forte. Ah, moi, j'ai jamais été athlétique. » T'as le même effet à l'inverse. T'es en train de faire un très, très haut niveau de sabotage qui sert strictement à rien, tu sais. Puis c'est le contraire de l'effet placebo, c'est l'effet nocebo. Mais tu sais, d'un point de vue clinique, d'un point de vue entraînement, c'est quelque chose qui est étudié, qui a un impact qui est vraiment, vraiment faramineux. Fait que c'est vraiment, vraiment important, toute cette espèce de comment tu te perçois, qu'est-ce que tu te dis à toi. Puis même, sais-tu quoi, même? Peut-être que c'est vrai. Peut-être que t'as une fucking génétique de merde. J'ai une fucking génétique de merde. Puis ça va pas bien, puis ça avance pas. Puis tu sais, je progresse pas autant que je devrais progresser par rapport à ce que je fais mes affaires. Mais ça me donne à rien de taper là-dessus, tu sais. J'ai à peu près aucun bénéfice à taper là-dessus, puis juste à me concentrer sur les choses que je peux avancer, puis de pas prendre l'énergie que j'ai pas à faire ça, dans le sens que. Il y a bien du monde qui sont là-dedans, qui sont tellement occupés à spotter les barrières potentielles ou à se mettre des barrières qui sont limite pas là, qu'il faut faire vraiment, vraiment attention à ça, parce que ça affecte définitivement nos résultats. Puis c'était ça ma première histoire que je devais vous compter. Imaginez, c'est du monde qui se font dire qu'ils prennent des stéroïdes, n'en prennent pas, ont des gains de genre, ça fait 15 plus 20 plus 8, mettons, fait que ça fait 35 plus 8, 40, ouais, 33, c'est ça. 15 plus 20, ça fait 35, c'est ça, ça fait 43. 43 kilos de gains sur 3 livres en quelques semaines, le monde qui se font dire qu'ils ont du strict comme des solides, qu'ils n'en prennent pas. Ben imagine si toi, sur une base régulière, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, tu veux juste te répéter que tu n'es pas capable et que tu n'es pas bon. Ah, c'est juste ça. Juste ça. Ça, c'est ma première histoire, puis on va la laisser de même. On l'interprétera pas trop parce que c'est vraiment fucking cucu. Mais faites vraiment attention à cette affaire-là. Pour vrai, ça peut vraiment, vraiment saboter un extrême qui est phénoménal. Okay. Deuxième histoire, dans la même lignée des trucs scientifiques, qui est un peu plus soft, celle-là, mais que j'aime vraiment ça utiliser parce que j'en parle souvent, genre, à des clients, puis je leur dis, genre, ouais, ça, c'est pas bon, ça, c'est possible, mais je donne jamais comme mon background, pas un background, c'est pas moi qui l'ai fait, mais genre, mon raisonnement, il vient d'où? Puis c'est une étude scientifique qui était. Encore là, on retourne dans les années de science. La première étude que j'avais partagée, on avait genre des clubs de lecture d'articles scientifiques. Puis là, tout le monde pognait une étude scientifique qui était en lien avec son domaine. Puis après, on le partageait. Puis tout le monde critiquait. Puis l'objectif avec ça, c'était d'apprendre à des jeunes chercheurs à mieux lire comme des articles scientifiques. On se faisait rentrer dedans sur une base régulière. Mais quand on arrivait en congrès, par exemple, on était prêts parce qu'on s'était fait humilier toute l'année. Fait qu'on était ready à se faire humilier. Puis on faisait attention à vos petites merdes à ce qu'on disait. Mais une des études que moi, je présentais tout le temps, mais pas tout le temps, j'ai présenté la première étude que j'ai choisie dans un club de lecture d'articles scientifiques comme ça, c'était celle-là, qui s'appelle Blackburn et Hall, qui, j'ai pas l'année, puis j'ai pas ressorti l'étude devant moi, mais je connais presque par cœur cette étude-là, fait Blackburn Cardio Weight Loss sur Google, vous devriez trouver ça sans réel problème. Puis dans le fond, eux autres qui ont fait, c'est, ils voulaient, je dirais pas qu'est-ce qu'ils voulaient faire encore là, parce que c'est comme un peu la même affaire qu'avec Saville, puis... J'ai oublié son nom, man. Comment il s'appelle l'autre? Ariel. Saville puis Ariel, qui ont comme une autre intention que ce qu'ils disent tant que ça, mais c'est moins dark que donner des faux stéroïdes au monde. Là. C'est quand même considérablement moins dark que ça. Mais je dirais pas trop c'est quoi l'intention parce qu'ils mesuraient vraiment une espèce de biais cognitif là-dedans. Fait ça va changer un peu mon affaire, mais leur texte, c'était vraiment pas compliqué. Ils ont pris, il me semble que c'était 40 participants, puis eux autres, ils regardaient genre l'impact du cardio uniquement sur la perte de poids. Fait leur move, c'était « Alright, on va contrôler l'alimentation, on va, entre guillemets, contrôler le stress. On va faire un déficit estimé d'une livre par semaine de perte de gras, ce qui est 3500 calories par semaine, fait roughly 500 calories par jour pour l'humain moyen. Leur truc, c'était juste, on va prendre 40 personnes, chaque jour, ils vont venir au labo, ils vont brûler 500 calories, on va leur dire de rien changer dans leur alimentation, pas encore rien. On mesure pas, on contrôle pas, on leur dit pas de prendre des photos, on les fait pas traquer, ça existe un full feeding en recherche où est-ce que on pèse la bouffe qu'on donne aux participants avant de leur donner, puis on pèse les restes. Fait que si on sait roughly combien ils ont mangé, là, on a pèsé avant, puis on a pèsé après, fait qu'on a quand même une bonne idée de qu'est-ce qui se passe. C'était vraiment pas ça, c'était juste, vous estimez, vous roulez votre barre, puis après ça, vous changerez votre alimentation, on va faire un déficit de 500 calories, puis on va regarder combien de personnes vont réellement avoir perdu, je pense que c'était 6 livres, mettons, à la fin de l'étude sur la durée des 6 semaines ou à la fin de demain. Puis, mettons qu'on jase. Combien de personnes, vous pensez, qui ont perdu du poids à suivre un protocole de même? Combien de monde ont perdu une livre par semaine religieusement à suivre l'affaire, sans modifier leur alimentation, sans modifier leur stress, en prenant pour acquis qu'ils viennent au labo à chaque fucking jour, là. Fait que, tu sais, il y a une espèce de mécanisme de responsabilisation externe qui est fait. Tu t'en vas au labo à chaque jour, puis tu croises des chercheurs à chaque jour. Ben, à peu près zéro. Genre, de mémoire, il y avait comme 2 personnes qui avaient réussi à perdre une livre par semaine ou plus sur la durée des 6 à 8 semaines. L'autre, 98% du monde ont, au minimum, pas perdu de poids, genre presque pas, ou pas de manière significative. Puis t'as quand même une partie du monde qui ont pris plus de poids que durant la durée de l'étude qui pèse au début. Fait que l'étude de ça, c'est pas pour dire le monde sont cons, le monde sont mauvais, le cardio marche pas pour la perte de gras. C'est vraiment pas ça que j'essaie de dire avec ça. Ce que j'essaie de dire avec ça, puis je pense que c'est quand même important, c'est pour l'amour du ciel, en entraînement, tu veux pas guesser. Tu veux jamais te mettre dans une position où est-ce que tu devines à peu près ce que tu fais parce que réalistiquement, tu vas deviner à tort, mon homme. Okay? T'auras pas raison. Puis on voit ça vraiment beaucoup de faites 500 calories de déficit, vous ne changez rien dans votre alimentation, c'est pas compliqué, groupe, on vous demande juste de manger comme vous voulez. Il y a personne qui monte pas ses apports. Tout le monde augmente ses apports de manière inconsciente. C'est normal, c'est simple, c'est humain. C'est très, très, très correct. La seule affaire, c'est qu'il faut vraiment être conscient de ça, que tu veux pas te mettre dans une situation où est-ce que tu estimes, parce que statistiquement parlant, l'humain, on est fucking mauvais. On est vraiment, vraiment, vraiment très mauvais pour être objectif par rapport à nous-mêmes. On est vraiment, vraiment mauvais pour ça, puis on est très mauvais pour être objectif par rapport à nos propres comportements de santé jusqu'à un certain point. Fait que c'est pas pour dire que tu as besoin que ça soit parfait, puis que tu essaies de tout contrôler tes calories à saine près, parce que même si tu essayes, pour vrai, tu réussiras pas. Fait que ça n'a pas tant de valeur, puis ça n'a pas tant d'intérêt de faire une affaire de même. Par contre, il faut que tu aies relativement une idée de comment ça se passe, puis comment tu évolues tes affaires, tu sais. Fait que ça veut dire que c'est vraiment l'alimentation, dans le sens que si t'as pas de mécanisme de quantification des portions d'une quelconque manière, c'est même pas obligé d'être tes calories, là. Ça pourrait être, j'ai une espèce de meal ou j'ai une espèce de repas, menu exemplaire que je suis à chaque semaine. Fait que tu as une espèce de niveau de contrôle des portions. Ça pourrait être de contrôler tes carbs, mettons, dans certains cas. Ça pourrait être d'avoir un jeûne intermittent qui, sans surprise, est un autre mécanisme de contrôle des portions. Sauf que l'aspect que tu contrôles, c'est le temps. C'est pas tant la bouffe. Idéalement, dans un mécanisme de jeûne intermittent, tu contrôlerais là aussi la bouffe parce que tu veux pas que ça vire en free-for-all, cette affaire-là. Là. Mais bref, ça pour dire, il y a quand même une espèce de mécanisme qui est fait, qui est une espèce de tentative de quantification. T'sais. Puis ça, c'est vraiment vrai en entraînement. En alimentation, pardon, c'est vrai en entraînement, dans le sens que si tu fais que les gens vont choisir une charge qui est auto-sélectée, je ne sais pas si c'est juste du bon franglais, ça, probablement. Si les gens choisissent eux-mêmes la charge sans avoir de référent ou sans avoir de coach ou personne qui leur donne une charge, ben le monde, 80% des gens vont prendre une charge qui est insuffisante pour générer des adaptations ou vont s'arrêter à plus que 5 reps de l'échec musculaire, ce qui n'est pas un range suffisant pour générer des adaptations. Moi, comment je règle ça, ce problème-là avec ma clientèle, c'est que j'ai un logiciel d'entraînement qui leur pitch d'en face automatiquement la dernière charge qu'ils ont prise, genre s'ils l'ont rempli. Il faut qu'ils rentrent, c'est quand même important, j'essaie vraiment de pousser pour que le monde le fasse. Fait que tu sais, si le monde a fait 10 reps à 30 livres, mon logiciel, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il va leur pitcher leur semaine d'avant dans leur nouveau workout. Puis étant donné qui ne voient pas nécessairement tout ce qui s'est passé avant. Il faut qu'ils essaient de battre la semaine passée. Puis je trouve ça plus le fun de même que d'avoir toutes tes semaines sur 4 semaines. Parce qu'à un moment donné, tu fais une comparaison, puis des fois, tu t'auto-sabotes. Tu fais genre, ah ben là, la semaine passée, j'ai fait 3 séries de 8, mais la semaine d'avant, j'avais fait 3 séries de 6. Fait que je vais juste faire, mettons, une série de 9 puis 2 séries de 8, étant donné que j'ai vraiment bien progressé il y a 2 semaines. Même si tu aurais peut-être été capable de faire 3 séries de 9 cette semaine. T'sais. Fait que l'idée de couper volontairement les données, je pense que ça aide la personne à avoir une espèce de visée de progression plus concrète puis plus immédiate, mettons, ou potentiellement que ça limite un peu plus l'auto-sabotage, disons-le comme ça. Puis en entraînement, c'est le cas, tu veux pas que la personne la devine, tu veux que la personne la sache ses PR. Puis c'est, en parlant de PR, ça c'est très vrai aussi, by the way. Tu veux pas, ça arrive à presque chaque jour, pour ne pas, je suis pas mal sûr que c'est chaque jour, sans faire, que quelqu'un fasse un PR, se suivi en ligne, puis qu'ils savent pas que c'est un PR à cause qu'ils s'en rappellent pas ou qu'il a pas traqué ses affaires. Fait que juste un petit conseil de pro de même, pas vrai, faites-vous un petit Excel sheet, notez ça sur les notes sur votre téléphone ou ayez une application qui sert à ça pour noter vos PR, pas vrai, parce que ça marche les deux cas. Le monde font des PR, t'as une source extrême de motivation qui vient d'arriver, t'es comme « Fuck man, I've got this », puis là, ça peut aller à l'autre extrême, puis tu t'en rends même pas compte que c'est ça qui est arrivé. Ou ça peut carrément aller à l'autre extrême, qui est quelque chose qu'on voit un peu moins souvent, mais que je vois quand même vraiment souvent, que le monde chasse. Il faut faire attention à comment je dis ça. Là. Que le monde chasse des shapes fantômes, ça fait du sens. Ça fait très Star Wars comme notre, comme notre concept, right? La chasse de la shape fantôme. Mais le monde va chasser des gains fantômes, mettons genre des. Ah, quand j'avais 30 ans, je pesais 50 livres ou je pesais. 50 livres, mon Dieu, j'espère que tu pesais pas 50 livres, tu es un enfant de 7 ans. Je pesais tel poids quand j'avais 30 ans, puis là, j'essaie de comparer, puis là, tu sors des photos 10 ans après, puis t'es comme. No fucking way que tu pesais 150 livres, mon homme, là, tu sais. Puis c'est la même affaire avec ça. Le monde s'imagine tout le temps que. Puis je pense qu'il y a un biais cognitif qui est ça. Puis personnellement, ça m'est arrivé aussi. J'étais comme, hey, mon meilleur dead, c'est temps. Puis finalement, quand je suis retourné sur l'autre application que j'utilisais, en fait, c'est pas une application, c'est des journaux parce que j'écrivais tout en main parce que j'étais un loser. J'avais des petits cartables Excel. Puis quand je suis retourné dans mes cartables Excel, je pensais que j'avais fait X charge, mettons, qui était. Peu importe, là, appelons la charge 100 livres en 3 à tel lift. J'ai pensé que j'avais fait ça, puis à retourner dans le passé, genre 3 ans après, j'ai fait « Ah non, man, c'était pas ça, genre. » Puis je m'étais trompé dans ma perception. Fait qu'en termes de charge, en termes de shape, essayez tout le temps de noter ça quelque part, pour vrai, parce que la mémoire humaine est une faculté qui oublie, puis généralement, on se fuck dans qu'est-ce qu'on pense qu'on a fait. Fait que ça, c'est quand même vraiment important. Vous voulez pas guesser, que ce soit en alimentation, que ce soit littéralement dans la sélection de vos charges, que ce soit encore plus dans la sélection des exercices, pour vrai. Soyez pas cette personne-là, pour l'amour du ciel. Soyez pas la personne qui arrive au gym qui devine qu'est-ce qu'il va faire, parce que ben, en fait, tu peux être cette personne-là, tu n'as vraiment, vraiment pas le droit de te plaindre que tu n'as pas de résultats. C'est la personne qui rentre au gym sans workout, qui ne sait pas ce qu'il fait, qui n'a pas de mécanisme de progression, qui fait juste YOLO ses affaires. Là. C'est correct, c'est sain, c'est juste que ça, c'est de l'activité physique. Puis de l'activité physique, par définition, c'est pas du progrès. Fait que tu as le droit d'aller au gym puis de faire ça, puis d'être la matante qui parle à tout le monde, puis qui bouge pour le plaisir. C'est très correct, c'est potentiellement très simple, ça va être bénéfique pour ta santé. Mais tu n'as pas le droit de chialer que tu n'as pas de gain sur ta shape, parce que par définition, ce que tu fais, c'est pas de l'entraînement. Ça, c'est la première affaire. Fait que tu n'as pas. Guessez le moins souvent possible l'alimentation si vous voulez changer ça. Guessez le moins possible le gym si vous voulez changer ça. Puis guessez le moins possible les pierres pour vrai, parce qu'il y a bien du monde qui vont au minimum manquer de motivation, qui vont avoir pas un boost de motivation quand ils devraient en avoir un. Puis l'autre affaire, c'est que. Des fois, c'est vraiment démotivant de chasser des choses qu'on pense qui est notre ancienne shape. En fait, c'est pas mal tout le temps. Démotivant de chasser des affaires qu'on pense sont notre ancienne shape ou notre ancienne charge qui, en vrai, sont des choses qu'on n'a jamais faites. Fait que je vous laisse là-dessus avec mes deux petites histoires avec la toune To a Friend, Alex on Fire, qui est une chanson merveilleuse. Donnez-y un peu de temps, donnez-y un petit peu d'amour si vous l'aimez, si vous aimez le genre, si vous n'êtes pas moi genre, sauvez-vous, bande de fous! Si vous n'aimez pas trop le genre, sauvez-vous. Mais si vous êtes, je ne suis pas trop sûr, pour vrai, donnez-y un petit instant. Cette toune-là est vraiment, vraiment insane. Si j'ai aimé ça, les podcasts, vous pouvez vous rendre sur l'email. Je mets beaucoup d'amour, beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de love sur l'email. Le lien est dans la description du podcast. Puis je vous laisse là-dessus, tout le monde, pour une fin de la chanson. On s'en reparle bientôt. Ciao, bye!
Nobody's battle but yours.